Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Les femmes murcies sont les dernières au monde à porter des plateaux labiaux. À l'origine, cette pratique aurait servi à dissuader les esclavagistes.
RTL.
Chez les murcies, il faut comprendre que ce que notre regard occidental considère comme une abomination est pour ce peuple un motif d'orgueil et un symbole de beauté.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité, c'est évidemment une qualité de notre invité, Jean-Pierre Dutilleux. Bonsoir.
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 Bienvenue sur RTL. Vous êtes réalisateur, photographe et depuis 40 ans, vous sillonnez la planète pour rencontrer les peuples isolés, souvent menacés par l'urbanisation, par la déforestation. Juste pour poser le décor, on expliquera tout à l'heure pourquoi on entend la voix de Sting, cette voix cristalline si belle, parce que ça fait partie de votre histoire aussi. Petite phrase sur les murcies, une histoire récente. Octobre 2013, vous êtes en Éthiopie. Donc c'est l'un des derniers peuples d'Afrique où les femmes, effectivement, on sait...
Oui, portent ce labret.
Alors, un labret, c'est quoi? C'est leur lèvre qui est déformée
qui est percée à l'adolescence. Un petit morceau de bois est inséré d'abord, et puis après, une fois c'est cicatrisé, il augmente et jusqu'à obtenir ce plateau qui parfois fait 20 cm de diamètre.
Et ce jour-là, en octobre 2013, vous les retrouvez? C'est émouvant, les retrouvailles avec les...
Oui, parce que j'y avais été en 97, et à l'époque, c'était très difficile de filmer là-bas. On était menacé de pendaison, j'avais dû y aller tout seul, et j'avais réussi à faire un bon contact avec eux. Et je voulais les retrouver et savoir ce qu'ils étaient devenus. Et en 2013, j'ai eu l'occasion de le faire, et ça a été une histoire assez compliquée, parce qu'ils avaient disparu, en fait... Pendant des heures, des jours et des jours, nous avons remonté le fleuve Omo, les sources du Nil bleu, à leur recherche. Ils ont vu d'autres tribus, mais pas de murcies. Alors, finalement, c'est l'un des derniers jours. Finalement, nous avons entendu une rumeur comme quoi ils avaient été aperçus un peu plus loin. Alors, après 5 heures de navigation, nous sommes arrivés là. En route, nous avons rencontré des crocodiles gigantesques, à tel point que...
C'est quoi gigantesque?
Moi, 9 mètres, plus grand que le bateau. Mais avec le matin, ils ont la gueule grande ouverte pour prendre le soleil. Et ils ne bougent pas, ils ont les yeux fermés. Et une amie qui était avec moi pensait qu'ils étaient en plastique. C'est pas possible. C'est du plastique. C'est pas
donc, qu'est-ce que vous avez fait avec le bateau?
Nous sommes approchés un petit peu. Et puis là, le moteur s'est arrêté de notre barque. Et on a commencé à dériver vers ce monstre, un saurien préhistorique qui était plus grand que nous. Et là, panique. Et puis, il s'est réveillé. Et alors là, quand il a commencé à bouger, l'Oumalé, qui était frénétiquement en train d'essayer de repartir le moteur...
C'était votre pilote
Oui, notre pilote, voilà. Ils sont repartis. Arrivés finalement un peu plus loin, derrière le coude de la rivière, on nous dit « Oui, ils sont là-bas ». On aperçoit un homme caché dans les fourrés qui s'envoie en courant. Alors là, je dis « Bon, c'est peut-être là ». Alors je prends l'Oumalé avec moi, notre guide, un grand black comme ça, très sympa. Et je prends ma caméra Sony, deux appareils Canon comme d'habitude, et puis je pars à la suite de ce monsieur qui a disparu. Et après une vingtaine de minutes, dans les fourrés, on s'égratigne, c'est ça. Il me dit « Arrête !» On entend des bruits au loin, et puis... Je dis, bon, on y va. Je passe devant, je mets ma caméra en route et j'ai fait un plan séquence de 15 minutes sans arrêter. Alors, j'avais eu ma caméra comme ça et je pouvais pas regarder dans le viseur parce que je voulais qu'il me voie. Alors, j'ai approché, je suis arrivé dans cette clairière avec des arbres magnifiques et il y avait ces murcies qui étaient là sous les arbres, certaines femmes à plateau, ils me regardaient avec des grands yeux. Et il y avait une espèce de silence qui s'était établi à ce moment-là. C'était
Mais ils se cachaient parce que vous disiez que vous les cherchiez.
Ils étaient cachés.
Mais se cacher, c'est un peuple nomade ou c'est les murcies
ce sont des nomades qui
fuyaient quelque chose?
Non, en fait, j'ai découvert qu'il s'était en partie caché parce que il est interdit, le gouvernement éthiopien interdit maintenant que les filles se percent la lèvre, n'est-ce pas? Et malheureusement, c'est une coutume essentielle dans leur culture et on peut en parler longtemps, mais pour cette raison, ils se cachent pour qu'elles puissent malgré tout le faire. Elles ont décidé de malgré tout enfrayer cet interdit et donc quand je suis rentré là avec ma caméra, Loumal était derrière moi avec le livre dans lequel, le livre que j'ai ici devant moi, dans lequel il y avait photos de ceux-là que j'avais photographiés en
97. Ah, vous vouliez leur montrer le livre, c'est ça, Jean-Pierre?
Mais non, mais je savais, je sais, c'est toujours été comme ça. Quand vous allez à nouveau dans une tribu, si vous avez des photos à leur montrer ou un film à leur montrer, c'est succès immédiat, quoi. Ça brise tout de suite la glace parce que ils sont tellement fascinés de voir leurs parents.
L'image.
Vivants ou morts, ou beaucoup plus jeunes en tout cas, des images. Et donc, ça crée tout de suite un climat extraordinaire. Voilà. Et donc, Loumal est derrière moi, je filme, on arrive, et puis il montre les photos, et alors là, tout le monde s'agglutine, et je continue, et je commence à filmer, et les jeunes filles sortent des fourrés, elles me montrent leurs lèvres, elles étendent, elles étirent leurs lèvres pour montrer à quel point leur lèvre est grande. C'est hallucinant. Et là, j'ai fait des photos absolument incroyables. On a dû repartir et voilà.
Allez, autre histoire qu'on va vous raconter dans un tout petit instant. Elle est peut-être pas la plus marquante de votre vie, en tout cas la plus médiatique. C'est Raoni, le chef des Indiens d'Amazonie, celui qui est devenu le symbole de la lutte contre la déforestation. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Nous sommes dans les pas d'un aventurier ce soir. Nous sommes avec le réalisateur Jean-Pierre Dutilleux, grand défenseur des peuples perdus, isolés, ces peuples premiers, de plus en plus menacés par l'urbanisation. Alors la rencontre la plus marquante, en tout cas la plus médiatique que vous ayez faite, c'est celle de Raoni, c'est ce chef amazonien devenu le symbole de la lutte contre la déforestation. C'est vous qui... D'ailleurs, comment vous l'avez rencontré, Raoni? Avant de le faire rencontrer à Sting, parce que ça, c'est incroyable.
Ah oui, c'est ça. On remonte loin, là. On remonte à 73, mon premier film. Je suis arrivé chez les Chukaramai, qui c'est le nom de la tribu de Raoni, qui est une des tribus du peuple Kayapo, dont il fait partie. Et il pleuvait, et la rivière, le Xingu, était déchaînée. Et j'avais un guide, Juruna, d'une autre tribu, qui était terrorisé parce qu'ils avaient très peur des Chukaramai, parce que ce sont les plus dangereux d'Amazonie. C'est eux qui ont massacré tous les ramasseurs de caoutchouc, les bûcherons, les etc., etc. Et finalement, on accoste, et il me dit, ça y est, on est chez eux. Et à ce moment-là, la pluie tombait, des rideaux de pluie, et on voit arriver vers nous des guerriers avec des torches, des longs cheveux noirs, tous avec des plateaux entièrement nus, couverts de jemipapo, avec juste une petite feuille enroulée
couvert
autour
de quoi?
Du sexe. Jemipapo, c'est une plante d'Amazonie, une graine d'Amazonie qu'ils écrasent et qu'ils mélangent de l'huile de piqui, c'est un fruit amazonien, et de la cendre. Et ça leur donne cette couleur noire qui les protège.
D'accord.
Des insectes et qui les rend invisibles aussi. Alors vous ne voyez que le plateau rouge sang quand ils sont en guerre. Ça veut dire qu'ils vont mourir.
Pareil, ils plateau labial, mourir. Pareil. Le plateau labial, pareil. Sur la lèvre intérieure. C'est intéressant d'ailleurs.
Ben c'est pour ça que j'étais en Éthiopie. Parce que je me disais, je ne comprenais pas pourquoi en Amazonie, une tribu ça, et au cœur de l'Afrique, au fond de l'Afrique, une autre.
Et c'est et quoi d'ailleurs femmes, c'est quoi le symbole?
Alors,
allez, rapidement en Éthiopie, chez les Moussis, parce qu'on l'a pas dit.
En Éthiopie, c'est un signe de beauté, c'est la valeur de la dot en cas de mariage. Chez les Kayapo, c'est un signe, je suis prêt à mourir pour ma terre quand j'ai un plateau.
Et donc on est chef,
si je vous rencontre au coin d'un bois, avec le plateau rouge,
c'est pas possible. D'accord, on va noter le conseil.
Je vous éclate le crâne comme une noix de coco.
Et plus le plateau est grand, c'est ça, plus on est important dans la tribu?
Chez les Kayapo, non, c'est pas tellement la taille du plateau. Le plateau grandit parce que la lèvre grandit.
Ah oui. Alors,
et on est obligé de mettre un plateau de plus en plus grand, comme les oreilles, vous savez.
Parce que la lèvre se détend.
Oui, ouais, exactement.
D'accord.
Alors voilà, ils arrivent. Et là, j'avais un petit bout de papier que m'avait donné Claudio Villas-Boas, l'homme, le célèbre indigéniste qui les avait contactés, qui m'avait permis d'aller là.
Qui est un Brésilien.
Histoire, donc, qui est un Brésilien qui travaille pour le gouvernement. Ça, qui m'avait autorisé à aller. Alors j'ai lu le petit papier. Sur ce papier, il était Wobni. Et il était tombé dans l'eau, il était tout mouillé, le papier, j'arrivais même pas à lire correctement. Mais j'ai dit Raoni, Raoni. Alors il y a un homme qui s'est avancé, un guerrier, c'était Raoni. C'était le premier. Il parlait pas un mot de portugais. Moi, je parlais pas un mot de Kayapo. Et le guide là était terrorisé. Il voulait partir. Il est reparti d'ailleurs. Et moi, ils m'ont emmené. Moi, on me dit dans une case. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que tout de suite, il a amené un enfant. Il m'a donné l'enfant qui avait une vilaine pleine. Play à la jambe. Mon père était chirurgien et il m'avait enseigné des rudiments de secourisme. Et donc j'ai fait ce que j'ai pu avec la play, il était très infecté, blablabla. Et il m'a laissé là et le lendemain il est revenu. Et j'ai appris plus tard que c'était son fils. Je n'ai pas pu aller dans les villages parce que lui avait les cheveux coupés. J'ai compris à ce moment-là la gravité de la situation de ces Indiens parce qu'ils étaient décimés par des épidémies de grippe, de bronchite et de variole contre lesquelles ils n'ont aucune immunité. accepté.
Qui avait été apporté par les, voilà. les colons successifs.
Et, c'est ça, c'est ça qui était le déclencheur pour moi de faire une aventure utile, dans la mesure où, avec le premier film que j'ai fait, j'ai pu faire une séance de bienfaisance et on a financé une campagne de vaccination. De là vient mon engagement en tant que... indigéniste aussi, voilà.
Et notamment pour les Indiens d'Amazonie, entre oui. autres, puisque vous oui. avez visité, et vous le racontez dans votre livre sur la trace des peuples perdus aux éditions Hugo Doc, des peuples du monde entier, il y a 40 ans d'exploration. Raoni, c'est vous qui le faites découvrir au monde, on peut dire ça, grâce à un film.
Oui, en fait, après avoir fait mon premier film qui était horrible, il était très mal fait, très mal filmé, il faut le dire.
C'est pas grave. Bon allez, on l'oublie.
Après, je suis parti en Nouvelle-Guinée. J'ai pris la carte du monde, j'ai mis mon doigt dans l'autre côté de la map monde, oui. et c'était la Nouvelle-Guinée. Et j'ai voulu aller faire là mon deuxième film. J'ai fait chez les Asmates, et c'est chez les Asmates que j'ai eu pas une vision, mais cette idée. Raoni me restait dans la tête. Il faut faire un film sur lui. Il faut lui donner la parole, que lui parle au nom des siens, que ce soit plus un journaliste européen qui fait des commentaires à propos des Indiens. Et je sentais chez lui un charisme, une force incroyable. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire un film sur Raoni. J'y suis retourné en 76 avec une équipe plus importante, caméra 35 mm,
cinémascope.
Non, à ce moment-là, lui parlait un petit peu et moi aussi.
Ah, vous aviez progressé l'un et l'autre.
On a progressé chacun d'un vers la langue de l'autre.
C'est bien, c'est bien. Et ce film, il a un destin incroyable.
Ah oui, alors là, d'abord, il était clandestin ce film. Nous avons fait ce film. On a dû sortir du Brésil clandestinement. C'était en pleine dictature militaire. Avec une équipe de basket qui ont pris les rouleaux de 35 mm dans leur petite valise. Mm-hmm. On est arrivé à l'aéroport.
Très vite,
de Rio,
le destin du film. Qu'est-ce qui lui arrive après?
Il était allé sélectionner au Festival de Cannes. Il était allé aux Oscars Hollywood. Il y a Marlon Brando qui a accepté de faire la version anglaise. Et blablabla. Le schmilblick a commencé à avancer, voilà.
Oui. Mais c'est une histoire fabuleuse. Et il y en a encore plein d'autres, parce que vous allez nous raconter, tiens. Mais alors, après le flash, après les informations de Quentin Vinet, ce jour de 1980, où on vous rappelle, parce qu'il y a eu un massacre de 14 bûcherons et Raoni s'est enfui. Vous allez arriver à son secours.
Et puis tout à l'heure, nous vous aiderons aussi à prendre les gestes qui sauvent grâce aux pompiers, des gestes de premier secours qui pourraient sauver 10 000 vies, imaginez, chaque année, si nous étions plus nombreux à les connaître. Ce sera juste après les informations.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Good evening, my dear friend Rowney. I'm very sorry I can't be there with you on this occasion. I'm there to look after you.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Vous avez entendu la voix du chef amazonien Raoni et celle de Sting. Vous comprendrez pourquoi ils se sont rencontrés et grâce à qui. On peut vous le dire, c'est grâce à notre invité. Jean-Pierre Dutilleux, aventurier et puis réalisateur. Vous nous avez raconté votre rencontre avec Raoni, c'était dans les années 70. Et puis, en 1980, vous êtes envoyé au Brésil par deux magazines, Paris Match et Stern, pour retrouver Raoni, c'est ça?
En fait, j'étais en Espagne et j'ai reçu un appel de mon agent à Londres me disant que les Chucaramay, que je connais bien, dont Raoni est le chef, un des chefs, il faut le signaler, avait massacré 14 bûcherons. Et donc, ils m'ont envoyé sur place. Je suis parti là-bas, arrivé à São Paulo, parce que c'était pas à São Paulo, à l'époque on passait toujours pour aller en Amazonie, on prenait après une correspondante, blablabla. Et j'étais donc à la FUNAI, qui est la Fondation Nationale de l'Indien, où j'ai retrouvé les frères Villas-Boas, qui étaient là, et je leur ai dit, mais où est Raoni? Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il tué des Blancs encore? C'est de la folie. Et on est bien d'accord, s'ils continuent à faire ça, les Indiens, on va tous les tuer. Il faut rappeler qu'il y avait 6 millions d'Indiens au Brésil au moment de la découverte, c'est une estimation. Et dans les années 70, il en restait 75 000. Je parle d'Indiens qui vivent encore de la manière traditionnelle. Oui. Voilà.
Alors,
donc,
Raoni
il me dit sur lui, il est dans le jardin, il est dans la cabane au fond du jardin. Je dis quoi?
J'ai cru que c'était un gag.
Oui, j'ai cru que c'était un gag. Je vais dans la cabane au fond du jardin. Et tout ça, c'est mystérieux. Les frères
Francis
ferment
Cabrel,
leur bureau,
pardon.
Ils rentrent chez eux. Et là, Raoni, il y avait une bougie, il était là avec le chasseur de panthères Engoro Ire, qui le suit partout, qui est un peu son garde-corps, et il m'embrasse, il me dit ça va, mais qu'est-ce que tu fous là?
Il vous dit ça, le chef Raoni.
Il me dit,
je
suis venu faire des courses. Ah bon, des courses, quelles courses? Regarde, il sort de son lit des caisses de fusils.
Oui.
Je dis, mais enfin, mais t'es malade ou quoi?
Qui tu veux encore tuer?
Oui, attends. Il me dit, non, il me dit, c'est pour la chasse, t'en fais pas. En fait, c'est de la dissuasion. Voilà, je l'ai appris plus tard. Et il a dit, mais comment tu as pu acheter ces armes? Et il m'a dit, bah avec l'argent du film.
Parce que le chef amazonien Raoni a acheté avec l'argent de votre film qu'il a mis en scène à Révéler au Monde des armes pour tuer des bûcherons.
Voilà.
Bravo.
Vous voyez un peu la situation, en pleine dictature. Là-bas, j'étais vraiment barré. Et après, il me dit, et maintenant, tu vas me les ramener au village. On va retourner au village avec les armes.
Il vous demande d'être complice, Jean-Pierre Dutilleux.
D'être complice, voilà.
Vous avez hésité?
Alors,
parce qu'il vous demande d'acheter des munitions aussi.
J'ai pas dormi de la nuit. D'un côté, j'avais le reportage à faire, c'était une histoire incroyable.
Ouais.
De l'autre, c'était vachement dangereux, parce que à ce moment-là, faire de la contrebande d'armes pour aller dans une zone où des Indiens ont massacré des bûcherons, voilà, vous voyez un peu le...
Oui, le Brésil de 1980, voilà. C'est pas celui d'aujourd'hui.
C'est pas celui d'aujourd'hui.
Alors vous y allez, c'est-à-dire vous l'aidez à ramener ses armes?
Alors j'étais voir le vieux Claudio et je lui dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Alors il me dit c'est simplement, c'est ça. Tu es pour les Indiens ou tu es contre les Indiens? Alors je dis, évidemment, je suis pour les Indiens. Voilà, t'as la réponse, voilà. Donc j'y étais.
Alors vous partez en avion. D'abord, est-ce que le pilote d'avion sait ce qu'il a dans sa...
Non.
Comme cargaison?
Non, non.
Il croit qu'il transporte quoi? Du riz?
On est arrivé dans un bus Volkswagen très tôt le matin. Il y avait des sacs de riz, on avait mis des trucs dessous et les Indiens dormaient dessus, c'est semblant d'être malades. Et on a passé le poste, oui, on était avec la Founa, on a réussi à passer le poste de contrôle. Après, il y avait le pilote qui nous attendait près de l'avion, je l'ai emmené prendre un café, faire la feuille de route, et pendant ce temps-là, les Indiens
ont chargé
l'avion, et se sont couchés sur le sac de riz au fond de l'avion.
Sauf que l'avion était trop lourd, donc...
L'avion était trop lourd.
Premier incident, on va dire, en vol.
On est obligé de se poser, et le seul endroit, c'est une base militaire.
Dommage, vous êtes fouillé, l'avion est fouillé ou pas?
Oh là là. Alors, on se pose, et puis les Indiens, ils sont très nerveux parce qu'ils sont dans le camp de l'ennemi. Évidemment, hein, bon, et les militaires nerveux aussi, voilà, les Indiens, machin. Et donc le colonel vient nous voir, il nous invite à rester. Les Indiens, ils disent non, mais venez. Il veut essayer de montrer qu'il a rien contre les Indiens, tout ça. Et moi, ils m'emmènent dans le mess. On mange tout. Et les Indiens, ils ont dormi dans l'avion et ils n'ont pas bougé de la nuit. Ils dormaient sous l'avion, ils voulaient pas, voilà.
Et finalement, Jean-Pierre Dutilleux, vous arrivez avec la cargaison d'armes dans le village de Raoni. Et là, l'accueil est plutôt sympa.
Non, parce que quand on est arrivé au-dessus du village, ils ont commencé à sortir des flèches, des vieux fusils, comme pour nous tirer dessus. Parce qu'ils croyaient que nous étions en fait les patrons des bûcherons qui venaient se venger pour bombarder le village.
Les bûcherons qui avaient été tués par les Indiens.
Par cette tribu, voilà.
Qu'est-ce qu'il fait,
alors on a fait le demi-tour avec l'avion, c'est la Raoni a l'idée géniale, il a pris sa pipe et l'a jetée juste quand on est passé au-dessus du village. J'ai dit, mais allume tes phares, fais des machins. Et puis il a jeté par la petite fenêtre la pipe qui est tombée au milieu du village.
Ils ont reconnu la pipe du chef, c'est ça?
La pipe du chef, après on s'est posé, on a été sauvés.
Quand vous nous dites ça, on se dit, c'est bon, l'histoire est finie, oui. Sauf qu'en fait elle commence d'une certaine façon, parce que Raoni n'est pas le seul homme de pouvoir dans ce village. Il y a aussi le chef de guerre qui s'appelle Mine, c'est ça, et c'est lui qui a organisé le massacre des bûcherons, ce chef de guerre. Comment ça se passe quand il revient?
Justement, moi j'étais là, une fois j'étais dans le village et que je voulais faire des photos de cette histoire, j'avais un reportage à faire, et m'ont pas autorisé à prendre de photos avant que Mine revienne et qu'il donne son accord. Alors j'ai attendu, je crois que c'était 2 jours, il est arrivé, j'étais dans la case des hommes au milieu du village, une chaleur épouvantable, il y avait beaucoup d'insectes, et finalement il est arrivé trempé de sueur, avec l'adrénaline à 1000 à l'heure et tout ça, on voyait qu'il revenait du champ de bataille en fait, c'est ça. Et alors il est venu vers moi, et je lui ai demandé de faire sa photo, et il a pris mon appareil photo, et il a voulu le jeter, je l'ai repris. Il a dit non. Alors, tout le monde regardait. Raoni regardait aussi pour savoir comment ça s'est terminé.
Et il intervenait pas.
Lui, il voulait. Il me menaçait. Parce que j'étais un autre blanc, comme
le chef de guerre vous menaçait.
Il me menaçait. Il m'avait déjà menacé. En 76, il avait failli me tuer. C'est Raoni qui m'avait sauvé à l'époque.
Et
il était avec son truc, il tapait avec sa massue devant nous. Nous, on croyait qu'il parlait avec mon équipe quand je faisais le film 35 000. On pensait qu'il parlait des ouvriers de la route et tout ça, mais non, il parlait de nous. Après, on a eu une.
Donc, déjà en 76, il voulait vous menacer.
Il me remenace à nouveau.
Et là, en 80.
Voilà.
À un moment, vous dites quoi, vous?
Alors, je lui dis, attends, là, ça va, basta. Ras-le-bol. Alors, je lui dis, vas-y.
Tue-moi.
Vas-y. Attends.
Mais puisque vous êtes là, vous aviez peur, Jean-Pierre Dutilleux?
J'étais pas très fier. Mais je faisais semblant qu'il fallait tenir une posture. Il faut garder la face quand même. Bon. Et alors là, il a pris sa massue en bois de fer et il a balancé sur moi. Comme ça, en poussant un cri horrible. Et il a arrêté juste devant mon nez.
Oh, quelle horreur.
Voilà.
Enfin, vous étiez sauvé.
Oui.
Et vous avez pris des photos.
Et alors après, il est resté comme ça, il tremblait. Il a laissé tomber la truc et puis il m'a pris dans ses bras.
Génial.
Voilà.
Et vous avez pu faire des photos.
Alors j'ai pu faire des photos
qui ont fait le tour du monde. Voilà. Et qui finalement ont eu un effet peut-être inverse de celui qu'on pouvait imaginer. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Et enfin, cette rencontre entre Raoni et Sting, ça passe par un drôle de film avec Stewart Copeland, le batteur de Police. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir sur RTL, dans la curiosité, on vous raconte l'histoire d'un combat, celui de notre invité, Jean-Pierre Dutilleux. Il est réalisateur, il est photographe, il est explorateur, aventurier. Et puis il écrit un livre qui s'appelle, il me le montre, j'allais le faire, Jean-Pierre Dutilleux, sur la trace des peuples perdus.
J'allais dire, on a tout ce livre en main.
Indigéniste, ça veut dire que vous défendez les peuples premiers. C'est quoi les peuples premiers ?
Les peuples premiers, ce sont les derniers témoins vivants de notre lointain passé. Ce sont ceux-là qui ont réussi à traverser des milliers de générations et rester inchangés.
Il en reste combien sur Terre ?
Mais très 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 peu. Malheureusement, c'est un monde qui disparaît très très vite. Les photos que je fais, les histoires que je raconte, malheureusement, un peu comme Edward Curtis faisait les Indiens nord-américains, vous savez, au siècle dernier, ce sont les seules images que nous avons de ces tribus américaines. Voilà.
Et ces histoires, elles sont vraiment passionnantes. Elles sont à découvrir dans ce livre qui est publié chez Hugo Doc. Nous, on a décidé ce soir de se concentrer sur Raoni, qui est la figure médiatique qui est devenue le symbole du combat des Indiens d'Amazonie. Et vous lui avez fait rencontrer le chanteur Sting, qui s'est associé à ce combat. Mais pour bien comprendre l'histoire, il faut raconter celle de votre rencontre avec le batteur du groupe Police. Il s'appelle Stewart Copeland et vous êtes avec lui en 84 pour tourner un film en Afrique. C'est quoi ce film ?
C'est le film le plus disjoncté que j'ai fait dans ma vie. Oui, c'est une espèce de...
Ça s'appelle Rhythm Artist.
Long form vidéo, on l'appelait.
Ça veut dire quoi, ça ?
Musique vidéo de long format.
Comme un clip
d'une heure. D'accord, quoi, voilà. Oui.
Et donc, vous avez sillonné l'Afrique avec lui ?
Oui, alors l'idée, c'était, quand le groupe Police s'est séparé en 84, j'étais contacté pour emmener Stewart en Afrique, dans les tribus, pour qu'il découvre les rythmes africains. Et nous avons traversé l'Afrique d'Est en Ouest, et il nous est arrivé des aventures incroyables. Hein, bon. Et puis, c'était un peu un film inspiré de jour en jour. Stewart et moi, on partait en avant, puis derrière, il y avait l'équipe qui suivait. Et quand ils arrivaient, on avait décidé ce qu'on allait tourner.
Alors, pour ce tournage, Jean-Pierre Dutilleux, vous avez eu des idées un petit peu folles, hein, on peut le dire, comme celle de faire jouer de la batterie à Stewart Copeland au milieu des lions. Imaginez Stewart Copeland dans la savane, dans une cage faite de grillage, avec une quinzaine de lions qui débarquent. Mais vous l'avez tourné vous-même?
Oui, alors c'est une histoire assez incroyable. Nous étions chez un riche propriétaire terrien kényan qui avait réussi à ramener une quarantaine de lions dans un grand enclos, immense enclos. On avait été voir les lions et on s'est dit, disjoncté comme d'hab, pourquoi on ne fait pas jouer Stewart au milieu des lions pour voir s'il arrive à leur faire peur ou ce qui va se passer ? Et alors Stewart dit, mais t'es fou ! Non, mais on va faire une cage ! Alors, il y a un des guides, il arrive et puis il nous fait une cage, mais c'est une cage genre poulailler.
Mais c'est oui, c'est du grillage de poulailler, c'est tout petit.
Ça effraie pas les lions, quoi.
Mais ça avait l'air de tenir, on croyait. Et puis en plus, le mec était responsable du cas, il avait mis des gros morceaux de viande à l'intérieur de la case de grillage, de ça pour être sûr que les lions viennent.
Et ils viennent, parce, hein. Dans le film, on les voit arriver.
On est de l'autre côté de l'enclos, sur les 4x4, avec les caméras, machin, prêts à tourner. Et tout d'un coup, il y a un nuage de poussière, il y a les lions qui arrivent au grand galop, ils ont senti la viande, hein. Ils arrivent, et Stewart est là, et il commence à jouer. Et en effet, il s'arrête, il commence à taper. Au départ, les lions sont un peu...
Surpris par la batterie.
Surpris. Mais ça passe assez vite. Hein. Je pense que la fin... Alors, ils ont commencé à grimper sur la grille. Stewart battait comme un fou pour essayer de les chasser, mais il n'y arrivait pas. Alors finalement, nous avons dû intervenir avec la Jeep et des bâtons. Les rangers de ce parc ont chassé les lions. Voilà.
Parce qu'ils étaient montés quasiment sur la...
Oui, il y en avait un qui était monté dessus, ça commençait à s'écrouler.
Seward Copeland, il était zen ou...
Il vous avez senti coller un peu de...
D'accord. C'est sympa de partir faire des documentaires avec vous, Jean-Pierre Dutilleul.
Trois jours, c'est vrai.
Ah, quand même.
Et alors, est-ce que c'est grâce à lui que vous avez ensuite rencontré Sting pour lui parler de l'Amazonie?
Oui, je dois signaler que jusqu'à ce jour, Stuart est un de mes meilleurs amis au monde. On se voit régulièrement, on s'adore et on a toujours des choses à se raconter. Lui-même a écrit cette histoire que je vous raconte à sa façon dans un livre en anglais. Oui. Voilà, donc on va se revoir bientôt pour confronter nos copies.
Vos versions.
Nos versions de ces histoires. Oui. Et donc, en fait, Stuart, je lui ai raconté un peu mon histoire, comment l'histoire en Amazonie s'était terminée. Un jour, on avait planté des flèches dans le sable sur une carte pour essayer de trouver une solution à ces conflits avec les Indiens, pour essayer de créer une réserve, etc. Et j'en ai parlé à Stuart, il m'a dit, tu sais, tu as besoin d'une star pour faire ce genre de choses. Peut-être que je peux te présenter à Sting, voilà. Donc c'est lui qui a fait le premier contact pour moi avec Sting, parce qu'à l'époque j'avais déjà cette idée de trouver un porte-parole connu. C'était à l'époque de Live Aid, il y avait eu Bob Geldof qui avait fait cette histoire pour l'Éthiopie, etc., etc. Donc c'était un peu dans l'esprit du temps.
Et vous allez
le rock
faire
au service de bonnes causes.
Et vous allez faire le tour du monde avec eux, avec Sting et Raoni.
Oui, alors après bon, pour convaincre Sting à aller en Amazonie, c'était une autre paire de manches.
Pourquoi?
Pas parce qu'il voulait pas y aller.
Non.
Moi, j'ai rien à foutre, moi, des Indiens. Tous les jours, on me sollicite pour ceci, cela. Un jour, sont les escargots de Bourgogne. Le lendemain, ça... Voilà.
Donc, vous avez trouvé les mots.
Non, c'était la providence.
Ah.
C'est une chose extraordinaire. Moi, je sais pas si on a le temps de la raconter.
Allez-y.
Faut aller vite, alors.
Mais très vite.
C'est quoi la providence?
La providence, voilà. Sting fait son concert à Rio Maracana, c'est le plus grand concert de sa vie, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, je suis moi aussi au Brésil avec Stuart en train de faire un autre film. On repart pour l'aéroport et on voit le car de Sting qui arrive, le bus de Sting. Et Stuart me dit, toi, c'est Sting qui arrive pour son concert. Je dis, c'est pas vrai, il est au Brésil, il faut que je retourne, je vais aller essayer de le voir. Non, tu veux pas encore lui casser les pieds, c'est le concert le plus important de sa vie. Il a vraiment pas envie de se voir, et tout est booké et tout. Blablabla. Et donc, je me retrouve quand même, j'y vais. J'arrive à rentrer dans l'hôtel où il se trouve, qui est cerclé par les fans, et la providence arrive, hein, ça va pas être long. Et...
on la voit arriver,
oui,
là,
on la voit y arriver.
Au fond du couloir.
Alors, il y a un mec qui me dit, bon, Sting, il va arriver par cet ascenseur, d'accord? Alors, je suis assis dans le hall, je vois l'ascenseur, Sting sort. Je m'approche de lui, et puis, à ce moment-là, on m'avait dit son père était décédé la veille. Il était tout en noir, il était triste. Je vais pas lui commencer à lui casser les pieds pour l'Amazonie. Donc je suis là devant lui, j'avais connu son père à Montserrat à l'époque. Et je serre la main, je dis je suis vraiment désolé pour ton père, etc. blablabla. À ce moment-là, la providence. Il y a un mec qui arrive et qui dit Monsieur Sting, il y a un délai de 15 minutes parce que le van pour vous amener au Maracana est tombé en panne. Ah bon, 15 minutes. Alors, il est devant moi, il est avec sa femme et avec toute son équipe. Et il me dit JP, you want to have a coffee?
Okay. Vous voulez un café, je traduis.
Il prend un petit bar à côté, il va tout d'un coup, tout le monde disparaît, il n'y a plus que Sting, sa femme et moi.
15 minutes pour convaincre.
Et moi, je me dis, c'est maintenant ou jamais.
Génial.
C'est génial.
Et alors, j'y vais. Je dis, Sting, je sais que tu vas passer à Brasilia. De là, je peux t'emmener chez les Indiens. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Ça va être fantastique. Tu vas voir.
Et c'est vrai, d'ailleurs.
Et alors, il me dit, JP, t'es fou ou quoi? Ça va pas, non? Alors, il se tourne vers sa femme, il dit, tu veux pas aller en Amazonie avec JP? Alors là, un grand sourire, il dit, si!
Et c'est sa femme
qui l'a persuadé d'y aller. Alors, il m'a dit, vas-y, arrange. Alors, nous avons été en Amazonie, et pour la faire courte, j'ai pu faire des photos de Sting avec les Indiens. Ça a été un impact assez important.
Et lui, ça a changé sa vie, à Sting, cette rencontre avec
Sting,
les Indiens?
Ça l'a bouleversé complètement, il s'est complètement engagé. Nous avons, avec les photos que j'ai vendues dans le monde entier, nous avons créé une fondation, The Rainforest Foundation. Et de là, nous avons pu faire un tour du monde avec Raoni, lever les fonds nécessaires pour tracer vers le bornage de la réserve, avec l'autorisation du président Sarney du Brésil. Il faut signaler que c'est lui quand même qui a fait le geste politique essentiel.
Et depuis août 1993, cette réserve existe, celle que vous aviez pratiquement avec Raoni marquée sur cette carte d'état-major lors de votre voyage en 1980.
Voilà.
Je voudrais qu'on termine avec une explication sur la photo qui est en couverture de votre livre sur la trace des peuples perdus qui est publié chez Hugo Doc. Je vais essayer de la décrire, cette photo. On voit deux femmes qui sont en blanc, en fait, maquillage blanc, vêtements blancs, etc. Et elles ont un long bâton qui leur permet de boire à une petite cascade. Est-ce que vous pouvez nous lire les deux paragraphes de votre livre
qui raconte
cette histoire? On est d'abord?
Alors nous sommes en Papouasie en 1985.
D'accord.
N'est-ce pas? Dans les hautes montagnes.
Allez-y.
Alors ce sont deux veuves et les veuves là-bas, elles doivent garder le silence pendant 6 mois et porter 30 kilos de coquillages toute la journée. Sans rien dire, et voilà. Donc, la plus jeune des deux veuves s'approche de la cascade, mais sa charge trop lourde l'empêche de se pencher pour boire. Pour ce faire, elle utilise comme une longue paille le bambou qui lui sert de bâton de pèlerin. Elle boit ainsi l'eau fraîche et cristalline. L'image est saisissante, le moment magique. Je prends alors une de mes plus belles photographies. L'autre veuve, Mendy, la regarde faire, attendant son tour, impassible. Je pointe mon appareil vers elle. Dans mon viseur, j'ai alors comme une apparition. Je vois se fondre dans la végétation la blancheur de son corps, couvert d'argile, son pagne de paille, son visage comme auréolé par la masse des colliers. Durant un instant, j'ai l'impression qu'elle s'incarne à l'image d'une sainte vierge de la forêt à l'aube de l'humanité. La scène mystérieuse s'imprime sur ma rétine et ma pellicule avant que cette vision fugace s'évanouisse. Madone de la forêt, je t'ai vue et jamais je ne t'oublierai.
Ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Pierre Dutilleux. C'était un moment passionnant que vous nous avez fait vivre.
Lisant.
Il faut lire ce livre. Sur la trace des peuples perdus, c'est publié chez Hugo Doc. Il y a notamment une histoire qu'on n'a pas eu le temps de raconter, celle de l'héritier des Rockefeller qui a été mangé,
gourmandé,
par un peuple d'Indonésie. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.